Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment vont les Landes de Bretagne ? Il y a bien sûr eu les incendies de l'été 2022 dans les Monts d'Arrée. Mais au-delà, faut-il mieux préserver ces milieux particuliers qui font la beauté, la singularité et une part très importante de la biodiversité de notre terre bretonne ? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Bernard Clément, ancien chercheur à l'université de Rennes 1. Mais avant, justement, rencontre dans ces Landes des Monts d'Arrée avec Emmanuel Holder, conservateur de deux réserves naturelles pour l'association Bretagne Vivante. C'est un reportage signé Morgane Large de Radio Kreisbreis, votre radio associative du Centre Bretagne.
Emmanuel Holder, ça sent bon ici, non ?
Ouais, ça sent le sapin. Ça sent le sapin qui a été coupé, là, parce que donc ici, sur le Cragou... c'est un bel ensemble de landes, et les landes ont été plantées autrefois en résineux dans les années 80. Donc ça fait des super sites pour l'accueil des champignons, mais pour le reste c'est pas top.
Pourquoi c'est pas top ?
Parce que déjà c'est une forêt pour une forêt de planches. Hein. Une forêt de planches où il y a peu de biodiversité, il y a peu de végétation en dessous, ça stérilise un peu les sols, hein, les boisements de résineux. Donc peu de vie autre que celle des sapins, 2-3 roitelets, 3-4 maisons jupées, et puis voilà quoi.
Donc, ça veut dire que c'est la lande versus l'épicéa tsitka, ici sur le Cragou.
Oui et non, c'est que simplement il y a des gens qui ont préféré planter des résineux sur les landes plutôt que les préserver quoi. Bon, c'est toujours le problème de la rentabilité économique, etc., etc. quoi. Et donc nous avons restauré là, tu vois, 27 hectares après l'abattage en 2010 de ces 27 hectares de résineux qui étaient malades d'ailleurs, hein, puisque beaucoup de ces endroits, beaucoup de ces boisements plutôt sont malades, soit de champignons divers et variés, soit du dindroctone, une espèce de petit insecte qui coupe la circulation de sève dans ces arbres. Et donc là, il est clairement temps d'abattre les sapins de Vancouver qu'il y a au bout là, de ce boisement. C'est ce qui est en cours, là, je ne sais pas si tu entends. Et donc nous, on a restauré 27 hectares donc, avec l'aide de Natura 2000, du département, de différentes structures, mais surtout donc département et Natura 2000. Et donc depuis, on fait pâturer par nos animaux. Tu les entends ?
On les entend, oui. Ouais. Avec l'aide des bœufs, alors vous ?
Oui, des vaches nantaises et des bœufs nantais, bien sûr, ouais, qui viennent là et qui entretiennent la lande comme dans d'autres endroits sous le Cragou qui n'ont pas forcément été restaurés, mais plutôt des landes humides. C'est-à-dire que sur les landes sèches, on fait plutôt de la fauche. Et là où une barre de coupe ne peut pas passer, c'est-à-dire sur des landes humides ou des landes tourbeuses, ou alors des landes qui ont été restaurées avec beaucoup de souches de sapins, ou plein de cailloux, eh bien on met en place du pâturage pour entretenir ces landes, puisque la lande est un milieu semi-naturel, c'est-à-dire que sans l'activité de l'homme, la plupart d'entre elles évolueraient vers un boisement spontané, un boisement de saule, un boisement de bouleau, et donc perdraient leur qualité de milieu ouvert. Et sur ces milieux ouverts, il y a certain nombre d'espèces qui apprécient cette ouverture, comme le courri cendré, les busards, la fauvette pitchou, le pipi de farlouze, l'engoulevent d'Europe, et j'en passe et tant d'autres.
Il y a du courri cendré à nicher sur le Cragou, Emmanuel Holder ?
Non, parce qu'il y a d'autres problèmes pour les landes, hein, notamment le cloisonnement par des cultures de maïs, par exemple, quoi. Et donc là, c'est... Le courlis n'apprécie pas ses cloisonnements, il lui faut 100 hectares d'une lande fauchée ouverte d'un seul tenant pour pouvoir s'opposer au milieu et se reproduire.
On va voir les vaches ?
Ouais.
Elles sont belles ces vaches. On est passé dans une mare là, dans une lande il peut y avoir ce type de milieu là, t'es carrément des mares.
Il peut y avoir oui des mares, ouais. Parce qu'en fait, la grosse mare là-bas a été creusée pour justement, en cas d'incendie, pouvoir avoir suffisamment d'eau pour éteindre le feu. Et donc ces mares nous servent maintenant pour abreuver les animaux, sachant que par ailleurs, il y a des mares naturelles qui se creusent plus ou moins naturellement dans l'ensemble de cette lande restaurée. Donc comme tu le vois ici, quoi, en 2010, on a restauré la lande On a poussé les bouffins et les rémanents de coupe. On les a mis en andin. Donc là, c'est ce qu'on voit, quoi. Donc ça fait des super talus. On a presque un champ d'élevage de talus, là. Et au milieu, donc, de la lande qui pousse, parce qu'on a ensemencé aussi en bruyère pour doubler la rapidité de pousse des ajoncs. Ici, on était par Coulandes, hein, donc c'est aussi intéressant de connaître son terroir. Donc par Coulandes, c'était une lande qui était planté avec, enfin qui était semé de graines d'ajonc pour pouvoir nourrir les chevaux. Donc c'est intéressant de connaître cette histoire pour pouvoir prédire un peu ce qui va pousser une fois qu'on restaure. Donc on a coupé les arbres, on a mis en andin, on a tout raclé, la couche d'aiguille aussi qui était déposée là, et on a mis en andin. Là sur les boisements, là où tu vois que ça bosse, quoi, bah, ça va être différent. On essaye de sortir un maximum de cam, et le fait qu'il y ait eu des éclaircies au préalable permet d'avoir la lumière sur le sol et de faire pousser des espèces de landes qui, une fois que les arbres seront abattus, vont pouvoir s'étendre, pouvoir se répandre un peu sur toute la surface, et on espère restaurer la lande.
Vous anticipez, quoi.
Voilà.
D'accord. C'est quoi le stade bien ? Parce que là, il y a un peu de tout quand même. Là, on voit qu'il y a une espèce de trouée où c'est un peu plus court. Et ouais, puis juste à côté, il y a, de la jonc qui fait 1,50 m. Il y a quelques saules. C'est quoi le stade où, pour vous, c'est optimal ?
Bah, c'est sûr que là où il y a la trouée, là où tu vois beaucoup d'ajoncs legales qui sont en fleurs actuellement, mais aussi donc de bruyères ou de calunes qui sont un peu sèches, là, puisque c'est la fin de saison, là, c'est pas mal, quoi. En fait, une lande, c'est quoi ? C'est de l'ajonc legal, c'est des bruyères, de la calune. La calune, c'est la fausse bruyère, celle que vous plantez dans vos jardins. Et puis, de la molinie. Donc, la molinie, c'est cette herbe qui blondit et qui prend facilement feu, comme on l'a vu cet été. Et donc, ça, c'est la lande atlantique, c'est-à-dire ces trois espèces qu'il faut qu'ils soient réunies pour faire une lande. Quand tu as que de l'ajonc d'Europe, là, ce grand ajonc là qui n'est pas ronfleur actuellement, mais qui fleurit au début de l'hiver, fin d'hiver plutôt, là on n'est pas vraiment sur une lande typique. Les bouleaux, les saules, quoi, c'est des menaces pour la lande ouverte. Donc on fait attention, les bêtes entretiennent entre les andins, et on a de temps en temps des chantiers, comme il y aura demain par exemple, des chantiers de réouverture de certains endroits pour permettre de limiter la propension de l'ajonc à se développer et à fermer le paysage. Voilà.
Faut qu'il y ait des trous.
Faut qu'il y ait des trouées, ouais, c'est ça, ouais. Et puis plus pratique aussi pour surveiller les animaux. Bah, elles mangent la molinie, mais elles mangent aussi de la jonc, de la bruyère, de la calune, elles mangent tout ça. Hein. Et comme tu le vois, là, les bêtes, elles sont plutôt bien en chair.
Ça sert à quoi d'essayer de sauvegarder des landes, Manuel Bert ?
À rien. C'est ça qui est beau. Que je complète. Ça sert aussi à préserver un certain nombre d'espèces animales et végétales, quoi, dont on peut se dire on n'en a rien à faire, mais il y a plein de choses qui sont pas forcément essentielles, mais je pense que ça l'est de par leur beauté, de par leur présence, parce que quand on se promène dans une lande, un paysage qui change tous les jours, toutes les saisons, selon les heures, quoi. C'est pas la même lumière, c'est pas la même ambiance, enfin, c'est complètement différent. Enfin, si on perd toute la magie et la poésie de ces paysages, à quoi ça sert de vivre ?
Ce serait un petit peu comme une chapelle en péril, et puis on déciderait qu'elle finisse pas en tas de cailloux.
Ouais, enfin bon, j'aime pas trop la comparaison entre le patrimoine religieux et le patrimoine naturel, mais le patrimoine naturel est basé sur une vérité, une présence, quoi. Donc c'est quand même différent. Mais oui, effectivement, les bâtiments religieux sont de toute beauté, et il est intéressant de les préserver, comme les paysages naturels. Oui. Et d'autant qu'ici, on n'est pas seulement sur un paysage naturel, on est aussi sur un paysage bâti, construit par l'homme, façonné par l'homme, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un milieu semi-naturel, comme le bocage, finalement.
Vous allez couper les sapins, là, donc tout c'est en cours, hein, le chantier est en cours, pour pouvoir récupérer de l'espace de lande. À terme, vous pouvez vous étendre jusqu'à combien d'hectares ici ? Vous pouvez atteindre les 100 hectares pour que le courlier revienne ?
Ah oui, bien sûr, ouais. Puis on a déjà dans la réserve naturelle régionale, on a 468 hectares déjà de lande, hein. Enfin de surface, et dont une bonne partie est bien ouverte. Mais bon, après, le courlis, il va mal un peu partout en Europe, il se casse la figure de partout, et c'est pas seulement le problème du paysage qui se cloisonne, c'est aussi le problème de cette espèce qui se casse la figure à l'échelle européenne.
Voilà pour ce reportage tourné dans les Landes des Monts d'Arrée avec Emmanuel Holder, conservateur de deux réserves naturelles pour l'association Bretagne Vivante. Alors, pour aller plus loin sur cette thématique des Landes et de sa biodiversité, nous sommes en liaison à Saint-Malo avec Bernard Clément, ancien chercheur à l'université de Rennes 1, à l'unité mixte de recherche éco-bio, écosystème, biodiversité et évolution, avec pour vous, Bernard Clément, plus de 40 ans de connaissance et de conservation du patrimoine naturel en Bretagne. Bonjour Bernard Clément.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous à ce reportage que l'on vient d'entendre? Retrouvez-vous bien les Landes des Monts d'Arrée que vous connaissez apparemment très très bien?
Oui, effectivement, le reportage réalisé avec Emmanuel Holder, je connais bien la réserve naturelle du Cragou notamment, puisque j'y ai fait mes premiers relevés en juillet 1973. Donc vous voyez, ça représente bientôt 50 ans maintenant, à quelques mois près. Et effectivement, ce que nous avions constaté déjà au départ, c'est qu'il y avait effectivement un enfrichement qui était lié à un boisement par de l'épicéa de Sitka, principalement sur une partie de ces Landes du Cragou. Et donc l'opération qu'a menée Emmanuel avec, disons, Bretagne Vivante, qui est l'association qui gère cet espace au nom du Conseil régional de Bretagne, c'est de reconquérir la lande en fait. Donc le reportage tient à la reconquête de la lande après défrichement opéré dans les boisements des années 70 environ, quoi.
Alors, bien sûr, on ne peut passer outre de vous demander quel est votre sentiment aussi, ou réaction à froid, après que ces Landes aient subi les terribles incendies de cet été de 2022. Comment vous avez réagi à cela?
Alors, ces incendies sont un peu particuliers, parce qu'effectivement, il y a deux choses. Ces incendies qui interviennent au cours d'une période d'été, après une longue période de sécheresse, donc ce qui fait que la végétation, mais aussi la litière, l'humus du sol sont très secs. Et donc tout ça, ce sont des éléments combustibles qui vont être effectivement consommés par le feu pendant pas mal de temps, parfois jusqu'à 3 semaines, voire plus dans certaines situations, lorsqu'il y a une épaisse couche de litière. Alors l'autre particularité de ces feux, c'est qu'ils interviennent sur des collines, sur une surface environ ici de 2000 hectares. Donc c'est aussi un autre élément à intégrer. Lorsqu'un feu intervient, comment dire, sur un petit espace, bon, c'est pas trop dramatique, mais là, effectivement, c'est la taille du feu aussi qui est l'autre élément important à intégrer dans la démarche.
Ouais, j'imagine que ça vous a, même à titre personnel, vu que vous connaissez bien ces milieux, beaucoup, beaucoup peiné après avoir entendu parler de ces incendies sur place.
Oui, alors il se trouve que c'est pas le hasard, mais disons qu'il y a eu les mêmes types de feux en été 1976. Et donc j'ai été amené, dans le cadre de mes recherches en écologie des Landes, à travailler sur le suivi et les réponses de l'écosystème Landes à ces feux de 1976, tout à fait comparables à ceux de cet été 2022. Donc on a déjà quelques éléments d'information, effectivement, sur les conséquences, l'impact des feux d'une part, et d'autre part la réponse de l'écosystème à ces feux.
Oui, on va y revenir. Comment on reconstruit une lande qui a été notamment touchée par des incendies de cette ampleur. Tout d'abord, pour qu'on comprenne bien, que nos auditeurs comprennent tous bien, qu'est-ce qu'une lande? Ou plutôt, on appelle ça aussi une lane, peut-être en langage breton.
En langage breton, effectivement. Donc une lande, en fait, c'est une formation végétale ou un écosystème, on parle d'écosystème lande, qui est occupé par une formation végétale associant des bruyères et des ajoncs. Donc ça, c'est la lande, je dirais, au sens strict, telle qu'elle est définie aussi par la communauté scientifique. Et puis, il y a effectivement d'autres formations qui sont assimilées à des landes. Et moi, que je traduis par système landicole. Il n'y a pas de bruyère, il n'y a pas d'ajoncs, mais ce sont par exemple les fourrés à fougères-aigles, les prairies tourbeuses à Moligny, à joncs diffus, ou bien encore des fourrés à Genêt. Alors pourquoi ce système landicole? Eh bien parce qu'elle servait de ressource jusqu'au début du XIXe siècle, comme ressource au même titre que les landes pour l'agriculture dans laquelle elle était intégrée en fait.
Donc on l'a compris, c'est un système en tout cas majoritairement composé de bruyères, d'ajoncs, c'est bien
ouais,
ça.
Pour les landes, disons, celles notamment qui sont protégées au sens de, on va y revenir, mais de Natura 2000 par exemple.
Est-ce que ces landes ont toujours existé à l'état naturel ou est-ce que c'est une construction humaine?
Alors, la réponse est double. En fait, effectivement, il y a des landes qui ont toujours existé, là où la roche-mère, ce qu'on appelle le substrat géologique, était très pauvre, notamment sur des grès, en zone littorale aussi, sur des falaises littorales, parce que là, les arbres n'ont pas la possibilité de se développer. Donc, la lande a existé dans ces lieux. Mais si on reprend, par exemple, les monts d'Arrée, elles étaient en mosaïque avec des bois maigres. Ce n'était pas les futaies comme on les perçoit aujourd'hui, c'était des bois maigres parce qu'on était sur des sols très pauvres. Et donc, du coup, les landes étaient en mosaïque avec les peuplements arborescents. Donc, effectivement, de ce fait, elles ont toujours existé.
D'accord, elles ont toujours existé, mais elles se développaient peut-être de façon assez anarchique, en mosaïque, comme vous l'indiquez, c'est ça ?
Oui, alors effectivement, si vous voulez, au cours de l'époque, à partir du néolithique, mais surtout à partir du Moyen-Âge, notamment l'action des religieux a conduit à défricher ces espaces pour en faire des terres cultivées, et notamment parce que vous savez que les religions monolithiques, notamment, il faut que l'homme intervienne, domine la nature. Hein. C'est différent des religions polythéistes, en fait, en termes de démarche. Donc effectivement, les défrichements ont eu lieu sous la gouverne des religieux, mais pas que. Hein. Et donc l'extension maximale des landes, on la situe vers les années 1800 à 1850 en Bretagne.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, justement, vous avez un petit peu amorcé le sujet, de plusieurs types de landes en Bretagne? Vous parliez notamment des landes littorales.
Alors oui, effectivement. Là, je dirais des types de landes, il faut prendre en compte la notion d'échelle. Si c'est l'échelle géographique des pays, nous ici, on est dans ce qu'on appelle les landes atlantiques, hein, qui sont des landes justement à Bruyères et à Jonc. Mais si on va plus vers le centre de l'Europe, déjà dans le Massif central, on n'a plus d'Ajonc. Donc ce sont des landes à Calune, notamment, c'est des landes différentes. Et puis si on va en Afrique du Sud, on a le Finbosch, c'est encore autre chose. Si on va en Australie, c'est encore autre chose. Donc ces landes, en fait, sont mondialement réparties sous des noms différents, mais qui ont des fonctionnements à peu près identiques. Hein. C'est-à-dire des sols pauvres sur lesquels se développent des végétations d'arbrisseaux, en fait, et non pas d'arbustes. Mais il y a aussi effectivement d'autres types de landes. On peut les diviser aussi en fonction de leur alimentation en eau. On va distinguer par exemple les landes sèches, les landes humides, les landes tourbeuses, voire même, qui sont souvent associées aux landes en Bretagne, des tourbières à seigne par exemple.
Alors on l'a bien entendu dans ce reportage, l'importance de gérer, de préserver et de reconstruire ces landes. Pourquoi est-ce si important pour la biodiversité? Ces landes constituent-elles en elles-mêmes des refuges et des lieux de vie extrêmement importants pour la faune et la flore, et notamment pour les écosystèmes?
Alors effectivement, ce qui va caractériser l'écosystème lande, c'est que c'est un écosystème qui a très peu de nutriments. C'est-à-dire azote, phosphore, il en possède très peu, ou ils ne sont pas disponibles pour la croissance des plantes. Vous avez des pH souvent très acides également, qui conduit à la libération, par exemple, de l'aluminium, qui est un élément toxique lorsqu'il est libéré dans le sol. Et donc pour ce faire, les plantes, notamment les ajoncs d'une part, grâce à des bactéries enfermées dans des nodosités sur les racines, ou bien les bruyères grâce à des champignons qu'on appelle des mycorhizes, ont la possibilité de croître dans ces milieux à forte contrainte, alors que les autres espèces n'ont pas cette capacité. Donc c'est pour ça que les landes, effectivement, ont un statut particulier, au même titre que les tourbières, en fait. Donc ce qui caractérise ces landes, c'est, je vais utiliser un gros mot, mais c'est l'oligotrophie. Alors ça veut dire, on peut dire ça par milieu maigre, en fait. Et donc de ce fait, beaucoup d'espèces vont être adaptées à ces conditions, espèces végétales, mais aussi animales, notamment les invertébrés. Et on considère, moi je considère, j'ai fait un peu les bilans, parce que je ne suis pas tout à fait jeune, que 90% des espèces patrimoniales, au sens où on l'entend, appartiennent à des milieux, justement, de type lande ou milieux dits oligotrophes, ou à forte contrainte. C'est-à-dire que là, on a une stratégie plutôt, les plantes ont une stratégie dite de tolérance, par opposition aux plantes des milieux communs, où c'est la stratégie de compétition qui gère la diversité.
Donc ça veut dire que même si on parle de milieu pauvre ou milieu maigre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vie extrêmement importante dans ces landes et extrêmement importante justement pour la biodiversité.
Effectivement, c'est le paradoxe. Hein, à des milieux pauvres en nutriments correspondent des milieux riches en espèces, puisque la compétition n'élimine pas les espèces. Je vous le dis, c'est une question, les plantes coexistent beaucoup mieux dans les milieux pauvres qu'elles ne coexistent dans des milieux riches, en fait.
Alors on a parlé un petit peu vie du sol, on a parlé flore des landes. Quelles sont les, aussi au niveau de la faune, quelles sont les espèces les plus emblématiques qu'on y retrouve. J'imagine que là aussi, c'est extrêmement riche.
Les espèces les plus emblématiques qui sont associées aux plantes des Landes, c'est beaucoup d'espèces invertébrées, notamment d'insectes, papillons, carabes et plein d'autres hein, qui sont effectivement... Et tous les butineurs, parce que les bruyères et les ajoncs sont fleuris longuement. Si vous allez au Cap-Fréhel, par exemple, il y a des fleurs toute l'année. Alors, pas au même endroit, mais la Lande est en fleurs toute l'année, ce qui permet effectivement aux butineurs d'aller se promener pendant toute l'année sur le site.
Et on connaît l'importance des butineurs pour la biodiversité.
On parle des abeilles, mais il y a aussi tous les butineurs sauvages, qui sont beaucoup plus nombreux que les abeilles d'ailleurs, cultivés. Et donc voilà. Alors effectivement, il y a d'autres espèces, mais qui elles sont inféodées aux Landes pour des raisons un peu particulières. Et l'espèce peut-être la plus emblématique dans les oiseaux, c'est le courlis qui niche dans les Landes. Et vous avez aussi, par exemple, au Cragou, on en a parlé tout à l'heure, les busards Saint-Martin, busards cendrés, qui sont aussi associés à ces milieux et donc qui ont besoin d'espaces à la fois de vieilles landes et de landes rajeunies par la fauche. Et donc c'est cette combinaison, cette mosaïque qui va assurer la survie, voire la belle vie de ces animaux.
Dans ce que vous avez observé depuis de nombreuses années sur ces landes, est-ce que vous avez constaté, vous, une disparition de certaines espèces progressives, des attaques visibles sur ces landes ?
Il y a disparition de landes, effectivement, en termes d'espace. Mais il n'y a pas forcément, je crois pas, de disparition d'espèces de ces landes, même s'il y en a qui sont en raréfaction. Et je pense par exemple à un papillon qui est associé aux fleurs, notamment les gentianes, l'azurée des mouillères, vous voyez, ça m'est revenu, l'azurée des mouillères, qui est dépendant des gentianes pour pondre et qui est dépendant des fourmilières. Donc c'est un ménage à trois et donc c'est extrêmement difficile. Et il n'y a plus que quatre sites en Bretagne où cette espèce est détectable en fait, hein, et vit.
Alors justement, quelles seraient aujourd'hui les principales menaces qui pèsent sur ces landes si importantes pour la biodiversité ?
Les principales menaces, on en a parlé d'un en entrée, ce sont les feux d'humus, hein, bien sûr. Parce que là, on détruit tout, on détruit aussi la biodiversité exprimée, mais aussi la biodiversité qui est dans le sol, les semences, les graines, etc., les champignons, enfin, tout un lieu de vie, en fait. L'autre qui est l'enfrichement arbustif. Dans certaines landes où le sol est un peu moins pauvre, ben, il peut y avoir des arbustes tels que les bouleaux, les saules, pardon, qui vont s'installer et vont... limiter le développement de la lande. Et puis enfin, il y a eu les défrichements agricoles à travers la politique agricole commune et aussi, on en a parlé en amont, notamment au Cragou, le boisement en espèces exotiques telles l'épicéa de Sitka, notamment très utilisé dans l'ouest de Bretagne parce que c'est une espèce frugale hein, qui pose sur les sols pauvres et dans des milieux sur des sols à forte contrainte également. Hein, c'est une espèce qui vient du piémont des montagnes rocheuses à l'ouest des États-Unis. Et donc c'est la raison pour laquelle elle est très utilisée comme boisement. Donc voilà les principales causes de menaces pour les landes. Alors il se trouve que maintenant, pour des raisons administratives et autres, le boisement en espèce de... sur les landes à brouillage, t'entends bien, sur les landes à brouillage à jonc est maintenant normalement proscrit. Par contre, il y a un autre facteur de changement global qui intervient au niveau de cet écosystème, c'est le phénomène d'eutrophisation. Des milieux, c'est-à-dire l'enrichissement de ces milieux par nos activités. Or, ces landes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent se développer que dans des milieux pauvres en nutriments. Donc le facteur d'eutrophisation est aussi une autre menace globale sur ces milieux, et cette eutrophisation est aussi partie dépendante du réchauffement climatique. Puisque lorsque vous avez une augmentation de température, vous avez une activité microbiologique qui s'intensifie et donc qui relargue des nutriments.
Et la cause de cette eutrophisation au niveau de l'intervention humaine, elle vient d'où ? Elle vient de l'utilisation de nutriments trop riches dans les sols ?
Oui, par exemple, si vos landes sont dans un espace d'agriculture intensive, vous avez les dépôts d'ammoniac. Et lorsqu'on relargue les lisiers ou les fumiers dans l'espace, dans l'environnement, il y a des retombées atmosphériques qui peuvent enrichir les landes, effectivement. C'est assez visible, mais c'est surtout, je vous dis, le principal effet de l'agriculture, c'est le défrichement. Par exemple, 30% des landes des monts d'Arrée, du parc d'Armorique et des monts d'Arrée en particulier, ont disparu en 40 ans, malgré l'existence du parc naturel régional. Parce que la politique nationale se superpose, si vous voulez, aux politiques régionales ou locales, en fait.
Alors, peut-être votre vision sur la façon dont il faudrait mieux gérer ces landes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Alors, je pense qu'on a quand même beaucoup progressé. Alors, beaucoup progressé à travers, effectivement, la mise en place de dispositifs de préservation et de conservation, notamment, on en a parlé tout à l'heure, Natura 2000, hein, c'est un dispositif européen transcrit dans le droit français, mais aussi la création de réserves naturelles nationales, de réserves naturelles régionales, des espaces naturels sensibles, du conservatoire du littoral et du mouvement associatif aussi, et notamment Bretagne Vivante, par exemple, qui est une association qui, à Pignon-sur-Rue, gère beaucoup d'espaces de landes. Quoi. Donc tous ces dispositifs de protection, je dis bien vis-à-vis des landes à Bruyères et à Jonc, sont quand même aujourd'hui assez pertinents pour préserver l'essentiel des landes d'Armorique, en fait. Alors le risque principal, je vous dis, c'est les volontés de boisement en espèces exotiques, par exemple. La poursuite du défrichement agricole, qui peut encore être aussi la raison.
Et concernant la reconstruction à l'œuvre actuellement après les incendies dans les monts d'Arrée, quelles sont pour vous les actions qu'il faut réaliser là de façon prioritaire? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour justement que ces landes reviennent peut-être à leur état naturel assez rapidement?
Alors, les observations que j'ai pu faire suite au feu de 76, c'est qu'on a effectivement une action, là aussi, le feu a une action, un impact, je dirais, de type mosaïque, selon la quantité de biomasse ou de carbone accumulé dans le sol, la durée de combustion va être différente, la quantité de cendres produites va être différente, et donc on a des réponses différentes. Moi, j'ai analysé, par exemple, quatre grandes trajectoires évolutives suite au feu de 76 qui caractérisent à peu près les capacités ou non de résilience de la lande. Donc, en fait, je dirais que à court terme, le seul élément qui me paraît utile de mener, et qui est commencé d'ailleurs par des collègues, c'est de faire des suivis, de voir ce qui se passe. Mais il n'y a pas péril, je dirais, à intervenir rapidement et dans le désordre, au contraire. Il vaut mieux laisser les choses se faire. La nature a une capacité de résilience, notamment dans les landes, assez forte. Et donc, ce n'est pas aussi catastrophique qu'on pourrait l'imaginer a priori, quand on voit ça de l'extérieur. Quoi.
Alors, Bernard Clément, pour nos auditeurs qui voudraient encore approfondir leurs connaissances sur les landes bretonnes, et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous diriger vers quelques références utiles et en tout cas assez abordables pour tout un chacun? On connaît votre parcours scientifique, mais pour quelqu'un qui voudrait déjà comprendre un peu comment ça fonctionne une lande et comment il faut la protéger, qu'est-ce que vous pourriez nous recommander?
Alors, je peux vous donner deux ou trois pistes. Hein. Il y a un Penarbed, la revue Penarbed qui est publiée par Bretagne Vivante, et qui a un numéro spécial qui a été publié en septembre, juste après les feux, notamment, qui s'appelle « Le feu dans les Landes bretonnes », qui est disponible donc auprès de cette association, et donc qui regroupe un peu les impacts des feux sur la flore, sur la faune, et les capacités de résilience ou non de ces landes après ces feux. Un deuxième exemple, c'est un ouvrage un peu plus conséquent, je dirais, mais un très bel ouvrage, qui s'appelle « La mémoire des Landes de Bretagne », c'est écrit par François de Beaulieu, qui est un ethnologue, peut-être d'ailleurs que vous le connaissez vous-même, hein, parce qu'il publie pas mal de choses, et avec des éléments de tableaux réalisés par Lucien Poédras, qui associe donc d'une manière très, très colorée ce que sont ces landes. Donc ça, c'est publié chez Scholv Rise. Enfin, un troisième ouvrage, qui s'appelle « Landes de Bretagne, un patrimoine vivant », toujours par François de Beaulieu, et qui est publié par Locus Solus, et qui raconte un peu l'histoire des Landes, là aussi, mais c'est un livre qui, en fait, traduit l'exposition sur les Landes qu'il y avait eu à l'écomusée de la Bantinée à Rennes il y a quelques années. Et puis encore, donc là, c'est le site web, puisque c'est un autre, il se trouve que j'ai été sollicité avec François de Beaulieu pour écrire des petits modules sur le site web, au niveau de l'association qui s'appelle Bretagne Culture Diversité, et sur le site qui s'appelle Bretagna, et si vous allez sur les recherches en tapant les mots « lande » d'une part ou « tourbière » d'autre part, vous allez trouver là aussi des petits modules qui permettent d'avoir une vue complète, assez, me semble-t-il, et synthétique sur ce dont on vient de parler.
Eh bien Bernard Clément, merci beaucoup pour ces références très précises, et puis pour notre entretien, on peut aussi conseiller à nos auditeurs tout simplement aussi d'aller se promener dans les Landes de Bretagne de comprendre le milieu de cette façon-là. Bernard Clément, je rappelle que vous avez travaillé de nombreuses années sur ce sujet des Landes et du patrimoine naturel breton en tant que chercheur à l'Université de Rennes 1, à l'unité mixte de recherche Ecobio. Merci également à David Hermy de Radio Parole de Vie, votre radio associative à Saint-Malo, pour la réalisation de ce duplex. A très vite pour un nouveau numéro de Biodiversité en Air. D'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par l'Accorlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.